Peut-on avoir un blog, un journal en ligne, lorsque l'on est un enfant? À 10 ou 12 ans, comment s'y prendre pour créer son blog? Quels sont les pièges à éviter? Peut-on tout dire lorsque l'on est sur Internet? On en parle ce matin avec vous, Frédéric Philippin, et une invitée qui est en ligne avec nous. Bonjour Astrid de Roquemorel.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur d'un guide de 80 pages intitulé « Mais non, je blogue », le petit guide des jeunes blogueurs pour bloguer vite et bien. Vous, quelle définition vous donneriez au blog?
Un blog, en fait, c'est un petit journal interactif que l'on peut créer très facilement sur Internet pour à la fois publier des actualités sur ses sujets préférés et échanger avec ses visiteurs grâce à l'interactivité des commentaires. Sur un blog, il faut beaucoup écrire, en fait. Et on reconnaît un blog à sa maquette très particulière, avec au centre de la page tous les articles de l'auteur.
Mais votre livre que vous venez de publier s'adresse aux enfants dès 9 ans et à leurs parents. Il y a pas mal de conseils très pratiques. On va justement prendre un exemple. J'ai un enfant qui veut créer son blog sur Internet. Comment est-ce qu'il faut s'y prendre?
Alors, il faut d'abord s'assurer que le sujet choisi est bien adapté à la création d'un blog. C'est-à-dire qu'il permet justement suffisamment de créer des actualités. Sinon, le blog va vite paraître obsolète et bien vide, en fait, puisque le centre du blog est basé sur les articles. On peut aussi créer un blog pour une durée plus limitée, par exemple s'il s'agit de faire un blog événementiel pour recueillir des avis d'enfants sur la fête de l'école, par exemple. Ensuite, ce que je dis, c'est qu'il faut choisir un outil pour bloguer, qu'on appelle la plateforme, et certains sont effectivement spécialisés pour les enfants, et le livre donne justement des conseils et des adresses pour ces blogs adaptés à des projets avec des enfants. Et enfin, une fois qu'on a validé son inscription avec un adulte responsable, on est prêt à écrire son premier article, à illustrer, à proposer des liens complémentaires, tout cela en veillant effectivement à bien respecter les règles de publication que l'on explique dans le livre.
Frédéric Philippin.
Alors, un chapitre de votre livre est intitulé « La charte de bonne conduite du parfait petit blogueur ». Alors, première chose à dire, on n'écrit pas n'importe quoi sur son journal en ligne, pas de diffamation ou pas de propos racistes, c'est bien juste?
Oui, effectivement. Le blog étant un outil multimédia très facile à mettre en œuvre, il permet une initiation plus générale finalement à la publication, à la communication et au bon usage de l'Internet en général. Donc le livre propose l'acquisition de bons réflexes avant la période de l'adolescence justement et pour la vie. Donc ce qu'il faut, c'est respecter la propriété intellectuelle et les contenus libres, sous licence libre, être vigilant sur son comportement dans un espace public et sur le respect des autres en général, comme dans la vie réelle finalement. Alors l'avantage du livre, c'est qu'il est très illustré et qu'il permet justement d'expliquer aux enfants différents comportements répréhensibles, comme par exemple l'injure, la diffamation, la notion d'atteinte à la vie privée ou la condamnation des propos racistes, effectivement.
Puis vous expliquez justement dans ce chapitre qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec les photos des amis, par exemple, ou avec les vidéos.
Oui, il faut effectivement à la fois respecter, concernant les vidéos, la propriété intellectuelle des contenus, mais aussi le droit à la vie privée, le droit à l'image, c'est-à-dire que pour prendre une photo d'une personne, normalement, on doit à la fois lui demander son autorisation et ensuite lui demander l'autorisation de la publier sur son journal.
Puis d'un autre côté, ce qui est également très important pour l'enfant, c'est qu'il se protège lorsqu'il est derrière son écran. Il ne doit pas trop se livrer dans un blog. Ça, c'est une règle de base.
Oui, effectivement, il faut veiller au respect des règles de base de la sécurité personnelle qu'on retrouve sur Internet aussi bien que dans la vie réelle, c'est-à-dire qu'il ne faut pas communiquer d'infos personnelles de soi ou de ses amis, comme des numéros de téléphone, des adresses e-mail personnelles, ses mots de passe, etc., ni communiquer trop d'infos qui permettraient de localiser facilement l'enfant, son établissement scolaire, éviter de donner trop d'infos sur son emploi du temps, par exemple, tout ça juste pour éviter des comportements malveillants. Donc c'est des réflexes de base. Ensuite, il faut éviter de publier des images de soi provocantes, respecter, comme on l'a dit, le droit à l'image des autres, ne pas donner suite à d'éventuels commentaires qui paraîtraient bizarres, toujours en parler à des adultes, et ne pas, sous prétexte d'obtenir plus facilement de l'audience, accepter des liens avec des sites douteux juste pour avoir du trafic, par exemple.
Mais pour rassurer les parents qui nous écoutent, l'enfant peut limiter quand même son accès, en tout cas l'accès à son blog à certaines personnes. Il peut en fait avoir une espèce de blog privé et pas ouvert à tous.
Effectivement, il est possible de protéger sur un certain nombre de plateformes de blog l'accès de son blog par un mot de passe, c'est-à-dire que seuls les visiteurs que vous connaissez, à qui vous souhaitez faire connaître votre blog, pourront via ce mot de passe accéder à ce blog. En revanche, c'est vrai que si vous montez un blog de loisirs sur des recettes de cuisine, par exemple, ou un blog pour donner des avis sur des spectacles, il peut être intéressant, au contraire, de laisser public pour recueillir des avis de visiteurs, avec toujours la possibilité de supprimer des commentaires qui vous paraîtraient bizarres, avant ou après publication, et de signaler aux administrateurs de la plateforme tout contenu indésirable. Sur les plateformes de blog avec des enfants, justement, les administrateurs sont très vigilants sur ce qui circule sur les blogs, et aussi bien avec des moyens humains qu'informatiques, en fait. Mais dans tous les cas, les parents doivent continuer à rester vigilants sur les pratiques Internet de l'enfant. Ça fait effectivement partie de leur mission éducative.
Autre mission pour les parents, c'est de mettre des limites, parce que c'est vrai que avoir un blog, ça demande pas mal d'investissement. Et le danger, c'est que l'enfant, il passe tout son temps libre.
Voilà, effectivement. Donc, les enfants sont très accros de l'informatique et de l'Internet en général. Et comme je disais, le cœur du blog, c'est vraiment l'écriture d'articles. Donc, on peut difficilement envisager un blog intéressant si, justement, on ne rencontre pas des amis, on ne sort pas, on n'écoute pas les autres. Enfin, il faut, pour faire un blog intéressant, il faut sortir et surtout pas rester rivé à son ordinateur. Donc, c'est effectivement au rôle des parents de bien délimiter les activités avec les enfants, de leur apprendre les bonnes règles de communication, de respect et de sécurité, bien sûr.
Alors, à la fin de votre guide, on trouve le dictionnaire des petits blogueurs avec plein de définitions. Alors, un exemple de définition, c'est le buzz. Vous pouvez nous rappeler ce que c'est un buzz, peut-être pour les parents qui nous écoutent?
Oui, alors le buzz, c'est un mot très à la mode concernant les blogs, c'est-à-dire que ça correspond finalement, c'est le bourdonnement, c'est le bruit des abeilles autour de la ruche. C'est un mot anglais, finalement, qui désigne tous les moyens mis à la disposition de la personne qui fait le blog pour faire la pub de son blog et déclencher ce qu'on appelle le bouche à oreille, c'est-à-dire faire en sorte qu'on parle du blog de manière très facile, par exemple en communiquant l'adresse du lien à ses amis, en mettant l'adresse du blog dans la signature de ses mails, en proposant un fil d'infos d'actualité sur son blog qui permettent de fidéliser en fait ses visiteurs. Et le dictionnaire propose aussi la définition de mots plus techniques comme les podcasts, le RSS et des termes juridiques comme les contenus sous licence libre, ce qu'on appelle le droit d'auteur, le droit à l'image, par exemple.
Alors, on a parlé en début d'émission des plateformes qui s'adressent aux enfants, des sortes de modes d'emploi du blogueur. Vous pouvez rapidement nous donner un ou deux exemples. Est-ce que c'est gratuit, ces plateformes?
Alors, effectivement, dans les blogs, il y a deux types de blogs. Il y a effectivement les blogs gratuits et les blogs payants. Dans les bonnes adresses du blog, j'ai effectivement sélectionné les blogs gratuits sans publicité, puisque c'est toujours la contrainte. Souvent, les blogs gratuits sont financés par la publicité. Pour les enfants, je recommande particulièrement canailleblog.com, donc qui a des graphismes très adaptés, des modérateurs qui sont vraiment à l'écoute. Il y a aussi une nouvelle version d'une plateforme pour enfants qui est en train de sortir, qui s'appelle zozoworld.com, où donc on peut aussi créer son blog. Et puis, pour les blogs d'école, il y a par exemple la plateforme scolablog.net, ou pour les blogs d'enseignants, le webpédagogique.com, qui permet des échanges, par exemple, entre les enseignants. Et toutes ces adresses sont rappelées à la fin du livre.
Et on les trouve, enfin quelques exemples, hein, en lien sur notre propre site. Merci Astrid de Roquemorel d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes l'auteur de « Mais non, je blogue, le petit guide des jeunes blogueurs pour bloguer vite et bien ». C'est paru aux éditions Milan Jeunesse. Je vous souhaite une belle matinée.
Merci beaucoup. Au revoir.
Radio Suisse Romande, la première, on en parle sur rsr.ch.